J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Hey, monte le son.
J'ai envie qu'on se replonge dans nos expériences faites ou laissées en suspens. Qu'avez-vous fait malgré la peur ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé faire par peur ? Partir en voyage seul, déclarer votre flamme, postuler à ce job dont vous rêvez tant ou encore sauter d'un avion dans le vide pour un très beau moment sous voile en l'air. Eh bien oui, cet exemple n'est pas sorti de nulle part puisque mon invité d'aujourd'hui justement s'est jeté dans le vide et je crois qu'on peut le dire, ça a changé sa vie. À mes côtés aujourd'hui pour ce grand entretien, Claire Duverger. Bonjour Claire et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci beaucoup.
Donc tu es championne en parachutisme handisport et dans quelques instants on va revenir sur ton parcours et je crois justement qu'on peut et qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question de la peur et de ce que ça peut changer dans notre vie lorsqu'on la surmonte, notamment avec ton histoire et ton parcours. Bienvenue à vous, amis auditeurs, dans cette dernière agitée du local de la semaine. Je suis Margot et nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Cette émission se terminera, comme chaque vendredi, par l'agenda culturel de la semaine. Mais je vous le disais, je suis aujourd'hui en très bonne compagnie, puisque je suis avec Claire Duverger. Tu travailles à Mayenne Compétences Emploi, Cap Emploi 53, mais surtout tu es compétitrice en parachutisme handisport. Tu comptes aujourd'hui 223 sauts. Et tu as remporté 3 médailles de bronze en championnat de France. La dernière, c'était en août 2023, c'est bien ça?
Exactement.
Et alors, aujourd'hui, tu es une grande sportive, mais pas seulement en parachutisme finalement. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, avant cette découverte du parachutisme? Parce que le sport, tu détestais ça avant.
Ouais, c'était pas trop mon truc. Alors, j'ai 30 ans et je suis en fauteuil depuis toujours parce que je suis née prématurément à 6 mois de grossesse. Donc, c'est un manque d'oxygène, en fait, qui fait que le cerveau a été atteint. Et donc, c'est la partie motrice du cerveau qui a été touchée pour ma part. Donc, j'ai toujours été en fauteuil. J'ai toujours aimé tester beaucoup d'activités. Mais par contre, à une période de ma vie, le sport, c'était vraiment pas mon truc. J'ai même été dispensée de sport à l'école parce que ça s'est pas très bien passé avec un professeur. Pas bien du tout même. Et à partir de là, j'ai été dispensée jusqu'à ce qu'on me propose ce premier saut en parachute. Alors moi, j'avais fait un vol en parapente, j'avais une dizaine d'années, j'avais trouvé ça génial. Et à cette époque, j'avais dit non, mais le parapente, c'est cool, mais alors le parachute, jamais de la vie, c'est un truc de suicidaire de se jeter dans un avion. Jamais je ferais ça. Et puis j'ai changé d'avis et j'ai eu raison.
Et alors justement, pour parler parachutisme, on peut peut-être commencer par un de tes plus beaux souvenirs qui t'a amené jusque-là aujourd'hui. C'était le 8 juin 2011 au sein de l'école parachutisme de Laval. Est-ce que tu peux nous le raconter ?
Exactement. Mais en fait, j'ai eu la chance qu'une association mayennaise, Marathon Soleil, m'offre un premier tandem puisqu'ils organisaient une journée spéciale pour les personnes en situation de handicap. Donc au début, quand on me l'a proposé, j'ai dit non parce que j'avais toujours dit que ça, je ne le ferais pas. Et puis finalement, au moment où j'ai dit non, j'avais déjà dans un coin de ma tête le petit côté « Ah mais en fait, tu peux pas dire non, c'est un truc de fou en fait. » Et même mes parents qui ont toujours été très proches et qui m'ont toujours accompagnée, qui m'ont toujours beaucoup aidée à tester beaucoup de choses, m'ont dit « Mais là en fait, tu peux pas dire non parce que si dans quelques années tu as envie de le faire, nous on saura pas comment l'organiser, qui contacter. Et là tout est organisé pour, donc c'est parti quoi, fonce !» Et donc, j'ai dit oui. Et je suis arrivée à Laval le 8 juin 2011, comme tu l'as dit. Et j'étais terrorisée au départ. Je croyais même que j'allais pas aimer ça. Je me suis dit, bon, je vais le faire. Comme ça sera le check de la to-do list. Mais ça va pas être mon truc, quoi. Et finalement, le fait de se jeter dans l'avion, donc c'était en tandem. Et je saute toujours en tandem. Donc, on est accroché à quelqu'un. Parce que pour vous expliquer un peu, on saute donc avec un moniteur tandem. Et on est accroché à lui. Donc, on est assis au bord de l'avion, presque les jambes dans le vide avant lui, parce qu'on est au bord de l'avion. Et au moment où on a basculé, j'ai senti tout de suite que c'était incroyable. En fait, toute la peur qui était avant dans la préparation et dans la montée d'avion, la peur a disparu à l'instant même où on a basculé de cet avion et que je me suis retrouvée à 180-200 km/h en chute libre pendant 45 secondes. Et voilà, c'était des sensations incroyables de liberté, d'adrénaline que j'avais pas retrouvée dans tous les autres sports que j'ai pu tester. C'est vraiment la seule fois que ça m'a fait cet effet-là, et ça me fait toujours cet effet-là d'ailleurs. C'est ce qui rend le truc encore plus magique, je pense. Et après, on ouvre la voile après ces 45 secondes de chute et on peut se promener sous voile pendant 5-7 minutes sous voile en fonction des conditions. Et ben là, moi, sous voile, j'avais l'impression d'être seule au monde, alors avec Louis-Étienne, le porteur qui était avec moi. Et je pensais que voilà, j'étais libre, que je pouvais hurler tout ce que je pouvais. J'avais juste oublié que plus on descendait, plus je me rapprochais. Et du coup, les gens qui étaient au sol m'avaient entendu hurler de bonheur pendant quelques minutes. Donc ça a beaucoup fait rire et on m'en parle encore à Laval.
Et alors, quand tu racontes ce souvenir-là, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu racontes que finalement, quand tu es sous voile, tu te rapproches du sol et là, tu vois ton fauteuil et tu as aussi cette sensation en tête de te dire, bah, en fait, finalement, en l'air, j'ai pas besoin de lui.
C'est ça, ça a été l'image qui a été vraiment incroyable, c'est de le voir se rapprocher et d'avoir envie de dire, eh ben oui, en fait, je vole, j'ai pas besoin de toi. Et c'est ce qui a fait que, à peine arrivé au sol, Je hurlais de joie, les gens ont couru vers moi pour me demander comment c'était. J'ai été un peu vulgaire, j'ai sorti un « putain, c'est un truc de ouf !» et la phrase d'après, c'était « quand est-ce qu'on recommence ?» Et à partir de ce moment-là, j'avais pas vraiment conscience que j'allais recommencer, mais au fond de moi, j'avais déjà envie de retrouver ces sensations, en fait, parce que c'était tellement magique et ça passe tellement vite, c'est tellement intense que bah, moi, une fois arrivé au sol, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver ces sensations à nouveau.
Et 3 ans plus tard, donc en 2014, Louis-Étienne Duréo, donc qui était ton moniteur pour ce premier saut en tandem, te propose de t'emmener au premier championnat de France handi organisé par la FFP. Donc ça a été une expérience, voilà, c'est le début, ça commence et là tu es lancée dans la compétition.
Bah exactement, alors au début j'ai pas trop compris parce que comme je disais, avant j'étais dispensée de sport et là on me parle de compétition donc je lui ai dit mais tu t'es trompée de personne en fait, fallait pas me demander à moi, c'est une erreur. Et je lui ai dit mais en plus c'est une compétition, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, c'est pas juste un tandem de découverte. Il me dit non, faut faire des tours pendant la chute libre. Mais je sais pas tourner. Il me dit oui, bah on fera 2 sauts d'entraînement et on verra bien. Donc j'ai fait 2 sauts 15 jours avant la compétition et je suis arrivée au championnat de France avec 3 petits sauts voilà. En me disant mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place. Et en fait j'y suis allée juste en me disant déjà ces 3 sauts de plus, ça me paraissait incroyable. Et c'était bah, pareil, une opportunité où en fait on se dit bah, on a peur, c'est pas pour moi, mais finalement quand on me le propose, en fait, je peux pas dire non, quoi. Donc je vais y aller. Et j'ai bien fait parce que une fois lancée, c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Pourtant, je suis pas quelqu'un de compétitrice et je me considère toujours pas comme quelqu'un de compétitrice. Mais on a envie de faire mieux, de progresser. Et donc en fait, j'ai vite pris goût. Et à la fin de cette première année, enfin cette première compétition, il me regarde et il me dit « Alors c'est bien, il faudrait qu'on travaille ça et ça. » Et je le regarde, je lui dis bah, « Alors ça veut dire que c'est pas fini. » Et il m'a dit, ben non, maintenant on peut s'entraîner la saison suivante et on recommence. Et du coup, j'ai participé à tous les championnats de France depuis 2014. Donc j'ai un peu l'impression d'être devenue compétitrice sur un hasard un peu, mais...
Parce que, en fait, finalement, donc, le sport, bon, tu n'aimais pas ça un moment, mais tu as quand même expérimenté différents sports. Tu as fait de la danse, du ski, du karting, de l'acrobranche. Tu as fait également du fitness et aujourd'hui aussi du crossfit. Donc pour quelqu'un de pas sportif, tu es carrément plus sportif que beaucoup de gens que je connais.
Alors il y a des sports que j'ai testés juste une fois ou deux ou à l'occasion. Souvent c'était ce que je disais quand j'étais un peu plus jeune, c'était pour faire comme les copains, les après-midi acrobranche où ils sont invités et que moi on m'invite pas. Et un jour je rentre à la maison et je dis moi aussi je veux faire de l'acrobranche. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de tester des sports comme ça, le ski, le karting, mais en sport régulier, ouais, c'était principalement la danse. Et justement c'est ce premier saut en parachute. Et la première compétition qui m'a fait dire mais en fait si t'es capable de te jeter d'un avion t'es peut-être capable de faire du sport régulièrement quoi. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de sport de fitness. J'ai fait une rencontre incroyable avec un coach qui m'a permis de progresser et même de me faire quelques pas en béquille après 4 ans de sport. Et après 5 ans de fitness j'ai commencé le crossfit à CrossFit Mayenne à Laval. Et du coup, voilà, depuis, je fais aussi du crossfit, qui est d'ailleurs une bonne idée pour la prépa physique quand on a d'autres sports. Et je vois bien que ça m'aide aussi pour préparer les sauts en parachute. Surtout que le parachutisme, c'est pas un sport qu'on peut faire aussi régulièrement. Donc ça permet de se dire qu'à côté, voilà, on essaye de faire au mieux pour être...
Ça permet d'entretenir sa condition physique pour être au mieux lors des sauts, puisqu'il y a une question de position, il y a plusieurs choses différentes.
Exactement, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, mais en fait, si tu as envie de sauter plus, il faudra que tu sois moins fatigué, que tu aies un meilleur gainage, une meilleure position, être capable de lever mieux les bras, des choses comme ça. Et donc, j'ai commencé comme ça, et puis pareil, j'y ai pris goût. Et en fait, ça fait aussi progresser sur plein d'aspects du quotidien. Bah, moi qui suis en fauteuil, sur des transferts, ramasser un objet qui tombe par terre, des choses qui étaient compliquées pour moi au départ, et avec le CrossFit qui est très fonctionnel, bah, ça me permet aussi de m'améliorer. Donc en fait, ça fait d'une pierre deux coups, on va dire, quoi.
Et donc, on parlait tout à l'heure de compétition. Donc tu as décroché 3 médailles de bronze en championnat de France. La compétition, ça apporte quelque chose pour toi en plus, justement. Donc tu t'es lancé dans la compétition presque malgré toi au début. Finalement, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? Est-ce que peut-être ça te permet de sentir ta progression aussi et de te donner des objectifs ?
Oui, c'est complètement ça. Au début, la compétition, je le prenais presque comme une excuse pour pouvoir pratiquer régulièrement. Parce que bon, si on se dit qu'on est parachutiste et qu'on l'a fait 2 fois dans sa vie, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on pratique un sport. Alors que quand on commence à vouloir le faire pour progresser, pour apprendre des choses qu'on peut très bien faire en dehors de la compétition, ça, il n'y a aucun problème. Et j'adore faire des sauts pour le fun aussi, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais cette idée de compétition, ça m'a aidé à me dire, en fait, on peut faire quelque chose et être actif dans le saut, même en étant en tandem. Et du coup, ça me donne, oui, comme tu disais, des objectifs et des envies de progresser, d'améliorer des choses. Donc c'est pareil, au départ c'était un peu une excuse, et puis finalement on y prend goût aussi parce qu'on voit la progression, parce qu'on a envie de s'améliorer personnellement, et puis ça fait vivre des belles rencontres. On a aussi beaucoup voyagé pour des compétitions, donc c'est sympa. J'ai visité des pays que j'aurais peut-être jamais visité si j'avais pas eu de compétition en parachutisme, donc c'est l'ensemble en fait qui est agréable.
Claire, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on continue ensuite sur ton parcours. On parlera notamment de soufflerie, de préparation justement à ces compétitions également. Je vous propose d'écouter Twist de Junior et on se retrouve juste après.
À 300 000 km seconde, danser dans ses bras, tu sens le poids de ton ombre. Dans ses bras, tu succombes, le sol se dérobe, le plancher s'effondre. Danser dans ses bras, entre les croches, les rondes. Juste un dernier twist, puisque tu insistes, juste un dernier. Quelques pas de danse dans le vide de silence, juste un dernier twist.
Et nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et donc aujourd'hui, pour le grand entretien du vendredi, nous sommes en très bonne compagnie puisque nous sommes avec Claire Duverger, compétitrice en parachutisme handisport. Et donc, on a pu revenir un peu sur ton premier vol, les débuts, ton passé, pas forcément... en amour avec le sport, on va dire, mais ça y est, on y est maintenant. Et donc, on parlait compétition sportive, oui. Et il y a notamment de la compétition aussi en soufflerie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la soufflerie ?
Exactement. Alors, la soufflerie, c'est le tunnel vertical en plexi qui souffle de l'air et qui recrée la chute libre. Donc, c'est un sport à part entière qui permet aux parachutistes de s'entraîner, notamment en hiver, quand on ne peut pas sauter. Donc, c'est très bien pour les accros comme moi, parce que du coup, quand on n'a pas envie de l'intersaison, ben, on sait qu'on a une autre possibilité. Et du coup, la FFP a aussi travaillé à développer de la compétition en soufflerie pour des personnes en situation de handicap. Donc, ça s'appelle le Handifly, donc Handifly soit en saut d'avion, soit en soufflerie, et du coup on a aussi l'occasion de faire des compétitions internationales et à l'étranger en soufflerie.
Et alors ce que tu me disais, c'est que c'était une expérience quand même différente aussi pour toi, puisque là tu peux le faire seule.
C'est ça, c'est la différence avec le parachutisme où moi je suis en tandem. Là en soufflerie, on apprend à se déplacer seul dans ce tunnel. Et pour la compétition, pour expliquer quand même, on a donc 4 points qui sont positionnés dans la soufflerie. Donc A, B, C, D, et on a un parcours à faire, donc on va toucher le point A, on monte à l'opposé en face, on touche le point B, on fait un 360 sur nous-mêmes, on retouche le point B, on va en face, on touche le point C, et ainsi de suite, jusqu'à retoucher la lettre A à la fin du parcours, et ça le plus rapidement possible. C'est un peu comme un format de course en athlétisme par exemple, où le but va être de faire le parcours le plus vite possible. Et c'est comme ça qu'on est classé, avec un système de coefficients aussi, comme en parachutisme d'ailleurs, où on a un coefficient pour un peu pondérer le handicap, puisque tous les handicaps plutôt moteurs sont ensemble, mais du coup, il faut pouvoir, on va dire, oui, faire le maximum d'équité entre les capacités de chacun. Et ce score permet de se classer dans la compétition.
Et donc, en fait, c'est particulièrement physique. On ne se rend pas compte, je pense, quand on regarde, si jamais nos auditeurs vont regarder un petit peu des vidéos pour se rendre compte de à quoi ça ressemble. C'est quand même quelque chose de très physique et il y a toute une notion d'équilibre parce qu'en fait, on est vraiment, comme tu le disais, dans les conditions de la chute libre.
Oui, en fait, on est posé sur l'air. Alors, ça paraît simple, dit comme ça. Mais du coup, il faut avoir une position cambrée. On est, donc, par exemple, nous, sur le ventre. Et on se sert, moi, je me sers beaucoup de mes bras puisque mes jambes sont attachées ensemble pour que ma stabilité soit le plus simple possible à trouver, même si ce n'est pas si simple. Et du coup, tout le reste, moi, je vais le faire avec les bras, la tête. Donc, en fonction des inclinaisons qu'on va donner aux mains, aux coudes, si on enfonce un coude, ça va faire tourner. Si on avance ou qu'on recule les bras, ça va nous faire avancer ou reculer. Et donc, faut ressentir tout ça, ce qui n'est pas évident au début, mais très intéressant parce que c'est complètement différent de la manière de se déplacer dans la vie de tous les jours. Et pourtant, là, moi, ça me permet de me déplacer sans fauteuil et sans autre aide technique en face de moi, quoi. Donc, c'est aussi ce qui fait que j'aime beaucoup ce sport. Ça rajoute une autre liberté. On m'a dit, mais pourtant, t'es enfermée dans un espèce de bocal. Et je dis, non, mais en fait, moi, je me sens libre parce qu'on apprend à faire plein de choses. Et puis après, il y a des disciplines aussi pour les personnes valides qui sont complètement dingues, où ils vont faire ce qu'on appelle du dynamique ou du freestyle, où ils vont avoir la tête en bas, ils vont tourner sur eux-mêmes, presque comme du patinage artistique. Donc c'est pareil, quand on les voit, ça a l'air très simple, mais c'est pas du tout aussi simple que ça. Mais du coup, ça donne aussi envie parce qu'on voit qu'il y a plein de choses à aller explorer et qu'en fait, la possibilité de mouvement, elle est presque infinie en fait.
Et alors, on parle compétition, donc compétition soit en saut d'avion, soit en saut en parachute, soit en soufflerie. Je me suis posé la question, comment est-ce que tu te prépares dans la gestion du stress, dans la préparation mentale ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en particulier pour arriver le plus sereine, le plus prête, le plus concentrée possible à cet événement ?
Alors, l'entraînement en parachutisme, ça va être des sauts d'entraînement. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on était à côté d'Avignon pour la semaine d'entraînement en saut d'avion. Et du coup, on fait plusieurs sauts. Bon, là, la météo ne nous a pas permis d'en faire beaucoup, malheureusement, parce que oui, c'est aussi un sport à météo, le saut d'avion. Et moi, le côté préparation, je l'utilise aussi beaucoup par le sport que je fais à côté. Donc, on parlait du crossfit tout à l'heure. Donc, clairement, ça me sert de préparation physique parce que, pour rebondir sur la soufflerie, quand j'ai commencé la soufflerie, j'étais pas du tout capable de voler beaucoup de temps dans une journée parce que c'était justement très physique et très compliqué. Et avec le sport, ça m'a permis de voir que j'étais plus à l'aise, que j'avais peut-être plus de musculature pour tenir cette position et la tenir à la fois mieux et plus longtemps. Donc la partie préparation là-dessus, elle se voit vraiment. Et au niveau préparation mentale, ben, c'est justement parce que je suis quelqu'un de très stressé et de très passionné, donc qui prend beaucoup les choses à cœur. Donc c'était pas toujours facile pour quelqu'un qui est à la base pas du tout compétitrice aussi, de se retrouver dans cette ambiance de compétition où bah finalement, la pression, elle arrive quand même si on n'en veut pas forcément au départ. Et du coup, moi, ça m'a un peu desservie parce que, on va être bloqué. Je me souviens d'un saut d'avion où je me disais, mais comment je tourne? Alors qu'en fait, en entraînement, je savais très bien comment le faire. Et ça s'est beaucoup vu en soufflerie parce que je pense que le fait d'être toute seule et le fait que les gens nous regardent sur la première compétition, ça a été aussi quelque chose qui a été ultra difficile. Et donc, je me souviens que voilà, ma première compétition en soufflerie, j'étais tétanisée au milieu de la veine, alors que la veille en entraînement, je faisais le meilleur score. Et le jour J, j'étais incapable de bouger. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que oui, il y avait peut-être autre chose à faire et que bah, avoir beaucoup d'heures d'entraînement, c'était bien, mais peut-être pas suffisant. Et du coup, j'ai commencé à parler préparation mentale. Donc voilà, pour voir la gestion du stress, voir la gestion aussi des objectifs et du coup changer un peu sa façon de voir la compétition pour se dire de toute façon, même si on gagne pas, en fait ce qui compte c'est d'avoir fait mieux qu'à l'entraînement ou de se sentir à l'aise. Donc moi clairement la partie mentale maintenant ça fait partie de mes objectifs aussi, de me dire je veux vivre la compétition sereinement et en profiter. Parce que en fait derrière il y a pas non plus un enjeu de dingue. Hein. On vise pas une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques ou Paralympiques. Et puis quand bien même quand on arrive sur des grosses échéances, il faut aussi savoir juste retrouver le plaisir de voler en fait. Donc moi comme c'est quelque chose que j'aime particulièrement, j'ai aussi envie que en compétition aussi, je savoure tous ces moments en fait. Donc c'est un autre travail, mais c'est intéressant aussi.
La compétition, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres. Et alors, quand je parle de rencontres, j'ai aussi retenu quelque chose que tu as dit lors d'une de tes conférences à Visible. Tu parlais d'une rencontre aussi avec une communauté, la communauté du parachutisme.
Oui, tout à fait. En fait, on arrive vraiment dans un sport où ça regroupe une quantité de personnes avec des parcours et des profils complètement différents. Et j'ai été assez surprise au tout début d'arriver et qu'on me considère d'abord comme une parachutiste avant de voir le fauteuil. Et ça, ça a été quelque chose qui a été incroyable. Où en fait, tout simplement, les gens arrivaient vers moi en me disant « Ah, c'est génial, tu sautes en parachute !» Au lieu de me dire « Oh là là, t'es handicapée !» Et donc, du coup, l'approche est complètement différente. Et on a même des compétiteurs sur les premières années qui ne savaient pas qu'on pouvait faire de la compétition et qui étaient complètement étonnés de vous voir et qui nous ont dit « Mais en fait, vous faites comme nous !» Et voilà, c'est ça. C'est un sport où là, pour le coup, on parle beaucoup d'inclusion. Je crois qu'en fait, l'inclusion... c'est bien d'en parler, mais en fait, là où on le voit le plus, c'est quand on vit ce genre de moment, parce qu'on est sur des compétitions avec des personnes valides. Alors certes, on est classé en catégorie handi-fly, mais on vit avec des compétiteurs, des sportifs de haut niveau. Et le parachutisme étant un petit milieu, on rencontre aussi vite des sportifs justement de haut niveau et certains, moi, que j'ai admirés en compétition, qui maintenant sont devenus des amis. Pour certains... qui m'ont coaché aussi en soufflerie ou avec qui j'ai eu l'occasion de faire des sauts incroyables en parachute. Et parmi eux, plusieurs ont été champions du monde, quoi. Et ça, c'est assez incroyable, mais c'est la beauté de ce sport aussi.
Parce que tu as eu l'occasion justement d'aller dans différents centres, dans différentes écoles de parachutisme. Et donc, c'est l'occasion de voir des paysages différents, mais aussi du coup de très belles rencontres.
Oui, c'est ça exactement. Je bouge beaucoup pour le parachutisme. On parlait des compétitions, mais aussi juste pour voler pour le plaisir. Et aussi parce que comme j'ai besoin d'un moniteur qui a une qualification spécifique pour les personnes handicap, bah, en fonction des endroits où je sais que telle ou telle personne va avoir la qualif, ça va me donner plus ou moins envie d'aller me balader dans tel ou tel centre. Et puis il y a aussi beaucoup d'événements de loisirs, en fait, sans parler de compétition, dans différents centres qu'on appelle des boogies. Donc c'est des regroupements en fait de parachutistes pour le plaisir, et du coup ça permet à la fois de voir d'autres zones, d'autres personnes, et en même temps de partager des sauts à plusieurs. Enfin voilà, c'est toujours des beaux moments.
Et alors tout ça commence donc avec la fameuse proposition de l'association Marathon Soleil en 2011, où on te propose de faire un saut. Donc au départ tu disais non par peur, puis finalement oui. Et donc, dans une conférence que tu as tenue cette année, j'ai envie de terminer là-dessus. Tu as cité Will Smith, et j'ai trouvé ça très, très beau, qui disait « Les meilleures choses de votre vie se passent de l'autre côté de vos peurs. »
Exactement. Et justement, il a dit ça en parlant lui-même dans son parachute. Donc, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir été marquée par ça. Et je trouvais que ça représentait vraiment bien la manière dont moi, je l'ai vécu. Parce qu'effectivement... J'ai failli dire non, et encore maintenant j'y pense beaucoup, à me dire mais tu te rends compte que si t'avais dit non, bah en fait t'aurais pas découvert ta passion. Et aujourd'hui ça fait plus de 12 ans que j'ai fait mon premier saut, et c'est quelque chose qui reste... je me dis mais oh là là, si t'avais dit non à ça, bah tu serais passé à côté des plus belles opportunités en fait qui te sont arrivées quoi.
Et donc d'être allé au-delà de ta peur pour ce saut en parachute, est-ce que tu sens que ça t'aide aujourd'hui dans d'autres domaines de ta vie, d'avoir osé, d'être allé au-delà quoi ?
Ah bah oui, complètement, dans plein d'aspects, que ce soit, je dirais, presque futile ou quotidien, et puis sur d'autres domaines. Alors je pense par exemple, dans les premiers moments où j'avais fait mon premier saut, j'étais, je sais plus, je crois que c'était au Futuroscope. Et du coup, il y avait un truc où je me disais, ah, je sais pas trop si je vais tenir, ça me fait peut-être un peu peur et tout. Et dans la file d'attente, je me disais, mais attends, c'est bon, t'as sauté d'un avion, quoi. Oui. Et il y a plein de moments maintenant où je relativise en me disant, mais attends, tu te jettes d'un avion et t'as pas peur, et t'aimes ça, et donc là, tu peux pas t'arrêter juste parce que le truc te fait un peu peur, quoi. Donc ça aide en termes de confiance en soi, avec le sport aussi régulièrement, de voir qu'on progresse, qu'on atteint des objectifs. C'est bien dans le sport, mais ça, forcément, ça sert aussi au quotidien à prendre confiance et à oser de plus en plus tester des nouvelles choses, dire oui à des invitations à la radio, par exemple, ou des choses comme ça. Donc oui, moi, clairement, ça m'aide beaucoup. J'irais même peut-être dans le milieu professionnel, enfin, voilà, changer de travail ou des choses comme ça. Enfin, oser passer des caps, et on se dit, mais la dernière fois que tu as eu peur, en fait, après, c'était plutôt chouette, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a des projets futurs ? Donc, les championnats, 3 médailles de bronze. Est-ce que tu as des futurs projets qui arrivent ?
Alors, côté parachutisme, évidemment, je continue. Le championnat de France, en effet, sera fin août 2024. On a fait des compétitions en soufflerie là, dans l'année. On a fait Milan en octobre, Prague en janvier et Berlin en mars. Et avec Bordeaux la semaine suivante pour le championnat de France en soufflerie. Donc on va continuer les compétitions comme ça, qui vont s'échelonner plutôt l'année prochaine, je pense, plutôt sur la période hivernale. Et à titre pro, j'essaye justement de développer une autre activité, puisque j'aime beaucoup échanger sur mon parcours et permettre de sensibiliser au handicap, alors au sport, au handicap et à l'inclusion de manière générale. Et du coup, je suis accompagnée par Codémarrage 53, qui me permet justement d'héberger mon activité pour proposer des interventions ou des conférences, soit en entreprise, soit dans les écoles. Enfin voilà, c'est vraiment le début, mais comme c'était quelque chose que je faisais avant et qui m'a toujours beaucoup plu, j'essaye de le développer un peu plus.
Merci Claire. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors peut-être on peut contacter l'autre radio si on veut éventuellement tes contacts.
Avec plaisir. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram avec... mon nom c'est Flying Girl avec un seul G et 15. Donc Flying Girl 15 sur Instagram.
Et on t'identifiera sur notre poste qui annonce l'émission sur nos réseaux sociaux pour pouvoir te retrouver plus facilement.
Merci beaucoup.
Merci Claire, merci d'avoir été avec nous. Et bien maintenant, on va passer à l'agenda culturel. Et donc, on commence cet agenda culturel un peu plus court aujourd'hui. On commence au Théâtre de Laval. Je vous ai parlé cette semaine, souvenez-vous, d'une comédie musicale atypique et locale, dansée, jouée et chantée par 65 habitants des quartiers lavallois et accompagnée par des artistes professionnels. Eh bien, ça aura lieu donc ce vendredi 26 avril à 18h et à 20h. On s'était rendu aux répétitions dans cette émission, c'était mercredi 24 avril. Vous pouvez réécouter en podcast l'émission sur l'autreradio.fr. On marche maintenant un peu, on reste à Laval, mais cette fois, on regarde ce qu'il se passe au 6x4. Samedi 27 avril, le Parti Teuf et le 6x4 s'associent de nouveau. Ça sera la troisième soirée du festival Terre Inconnue, avec une très belle programmation, notamment Dame Area, un groupe post-punk qui nous vient de Barcelone et qui a laissé bouche bée toute l'Europe avec près de 200 concerts donnés au cours des deux dernières années. Au programme également Atlas, qui vous délivrera un live électronique machine-voix aux multiples facettes. Il y chante les peines et les doutes, qu'il s'y passe seul sur un banc ou bien perdu dans la foule. Moderne Honk, un groupe un peu noise, un peu punk, un peu dance et surtout très abrasif, sera de la partie avec Kate Holt, c'est Charlotte Boisselier, échappée de feu October Lieber, désolé pour l'accent, c'est terrible, qui développe aujourd'hui son propre projet Dark Pop Techno. La programmation complète est à retrouver bien sûr sur le site internet du 6x4. Voilà, l'agité du local s'arrête ici. Merci à Claire d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce très très bel échange. Bien sûr, ça continue sur les ondes de l'autre radio. Par exemple, à 19h, vous prendrez un petit bain de nostalgie avec l'émission Dance Hall Social Club qui vous ramène en bouche des sucreries musicales du passé. À 20h, on écoute Tempus Fugit avec Fred et Plom. Sur le papier, rien ne semblait les réunir, ces deux-là. Et pourtant, ils ont bien un dénominateur commun, leur goût pour la musique, ses anecdotes, ses particularités et son actualité. À 17h, on continue notre immersion au printemps de Bourges avec l'équipe des Trois Bennes qui sont un peu chez eux sur place finalement. Mais comme ils sont sympas, ils nous en font profiter. Et ce, jusqu'à dimanche de 17h à 18h. Je ne peux pas ne pas vous parler de ce qu'il se passe sur nos ondes ce week-end, puisqu'il s'en passe des choses. Samedi à 13h, vous écouterez bien sûr Rock Dreams, qui ce week-end fait un focus sur le groupe Sly and the Family Stone, qui est un groupe de musique américain originaire de San Francisco, actif de 1967 à 1983. C'est un groupe pratiquant un mélange de funk, soul, rock et musique psychédélique. À 18h toujours samedi, c'est l'émission live du Transistor qui a investi le carré à Château-Gontier avec les groupes OXO, Club Mutant et Sugine. Et ça ne s'arrête pas là, non, c'est très long aujourd'hui, puisque nous serons en direct à 20h pour une émission spéciale dans Les Oreilles du Foin. L'émission sera en direct du bourg de Saint-Denis-de-Gâtine dans le cadre du projet d'action culturelle d'Atelier Radio mis en place par l'association Au Foin de la Rue et l'Autre Radio. Elle sera animée par une dizaine de jeunes du service jeunesse de Saint-Denis-de-Gâtine qui vous présenteront la programmation de la 23e édition du festival Au Foin de la Rue. Le week-end se terminera dimanche avec les allumeurs de réverbère à 19h. C'est notre émission qui parle de résistance aujourd'hui, hier, ici et ailleurs. Elle s'adresse à tous, mais surtout aux rêveurs et aux constructeurs. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos oreilles en restant à l'écoute de l'autre radio et tout autour de vous, s'il vous plaît, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.